Je voudrais vous donner juste quelques nouvelles de ce qui se passe à Besançon en ce moment. D'abord, prier pour quelques personnes. On fait régulièrement des parcours de découverte de la Bible avec les étudiants. On appelle ça la grande traversée de la Bible. C'est pas la grande traversée du désert, c'est mieux, c'est la Bible. Et au début de l'année, il y a eu tout un groupe qui suivit ce parcours, dont plusieurs étudiantes catholiques. Et elles ont beaucoup apprécié les choses et elles en ont parlé à l'aumônerie étudiante catholique de la ville. Et comme on connaissait d'autres catholiques qui en avaient parlé aussi, finalement, l'aumônerie catholique a demandé à ce que je l'anime là-bas. Donc j'ai fait déjà 2 des 4 épisodes chez eux. Alors c'est pas tout à fait pareil que d'habitude, parce que là je suis pas dans mon association, je suis invité là-bas et je ne sais pas exactement ce que les responsables pensent de ce que je dis, toujours. L'autre grande différence, c'est que c'est tous des étudiants catholiques qui viennent à l'aumônerie, c'est-à-dire des étudiants qui sont engagés dans leur foi. Ils ont un amour a priori pour Jésus et pour la Bible, même s'ils ne connaissent pas bien toutes ces choses. Et donc les questions qui surviennent ne sont pas forcément les mêmes. C'est plutôt qu'ils ont toute une grille de lecture qui est déjà posée sur la Bible et qu'il faut arriver à passer à travers ça. Vous pouvez prier pour eux pour que toutes les traditions, etc., qui sont par-dessus, ne recouvrent pas le vrai message central de la Bible. Au niveau de l'organisation du feu, ça fait des années qu'on est hébergé à droite à gauche. On a été hébergé par Pierre et Martine Fleck, que vous connaissez sûrement, qui tiennent la librairie à Besançon. Ils avaient de la place pour nous au début, alors on était chez eux, et puis ensuite on a déménagé pour être un peu mieux situé pour les étudiants. Donc ça a été chez nous, chez notre collègue Myriam, qui habite près du centre-ville. Puis depuis 2 ans, on est hébergé, 2 ans et demi maintenant, on est hébergé par un café qui a été ouvert par une église de la ville. Donc voilà, on se déplace petit à petit, mais ce qu'on aimerait, c'est pouvoir poser nos valises dans un local qui soit pour le feu, où on puisse faire ce qu'on veut, et pas seulement le soir, mais être ouvert beaucoup plus souvent. Et là, on a repéré un endroit assez bien situé, et on se pose encore la question s'il faut vraiment qu'on aille de l'avant avec ça. Alors, vous pouvez prier pour qu'on ait la sagesse, parce qu'on demande des conseils à pas mal de personnes, parce que c'est une maison qui est un peu mal faite, mais qui est bien au bon endroit. Alors on réfléchit, est-ce qu'il faut toute la rénover, ou est-ce qu'il faut carrément la détruire et construire autre chose, ou est-ce qu'il faut qu'on cherche ailleurs? C'est les 3 possibilités qui sont devant nous. Et tout ça derrière, ça implique des calculs de coûts et de possibilités de payer tout ça. Donc prier pour qu'on ne prenne pas une décision qui nous pose des problèmes dans la suite, mais que ce soit vraiment utile pour que les étudiants puissent connaître l'Évangile. Donc ça, le premier sujet de prière, c'était les étudiants qui découvrent la Bible, en particulier les catholiques. Le deuxième sujet de prière, c'était le bâtiment. Et le troisième sujet de prière, c'est qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Jonathan Comte. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le gendre de Dany et Nadine Kesseli, qui a 25 ans à peu près, et qui veut s'engager dans la mission en plus long terme, et l'an prochain il va être du coup stagiaire. Et une partie de son stage se passera au feu à Besançon, à peu près un peu plus de la moitié de son stage sera là, et ce sera moi qui aurai la charge de l'encadrer pour ça. Donc c'est la première fois que pour moi j'ai un stagiaire, donc priez pour moi pour que je puisse l'encadrer, lui transmettre des choses qui lui sont utiles pour servir Dieu dans la suite. C'est quand même une responsabilité que je ressens. J'aimerais le faire correctement. Voilà. Je vous remercie pour vos prières. Alors, pour le message de ce matin, je commençais par vous poser 2 questions et vous n'êtes pas obligé de répondre à l'oral. Est-ce que vous êtes déjà endormi le soir en vous disant ce soir, aujourd'hui, je me suis tellement bien, je fais tellement bien que Dieu doit être tellement content de moi et il doit tellement m'aimer? Peut-être ça. Peut-être même qu'en vous couchant et en vous disant ces choses, vous vous êtes dit, dans la Bible, c'est vrai qu'il y a des choses qui me font penser qu'il faut penser comme ça. Par exemple, c'est écrit à un endroit dans la Bible, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et on s'imagine peut-être des fois Jésus en train de penser ça de nous et de nous dire ça. Peut-être qu'il y a d'autres soirs, au contraire, vous vous dites « Dieu doit être furieux avec moi. Je me suis tellement mal comporté aujourd'hui, comment est-ce qu'il pourrait m'aimer ?» Peut-être même que vous avez des versets de la Bible qui vous font aller dans ce sens, comme par exemple quand Dieu dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent et qu'il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. C'est le genre de textes qui font trembler quand on réfléchit à notre journée, qu'on n'est pas très fier de nous. Je ne sais pas si vous reconnaissez dans une phrase ou dans l'autre, peut-être dans les deux, et à mon avis c'est plutôt dans les deux, ça dépend des jours, ça dépend de comment ça s'est passé. Le problème avec ce genre de bilan du soir, peut-être c'est plutôt le matin que vous le faites, je ne sais pas, peu importe, c'est que ça fait que notre relation avec Dieu est très très fluctuante. Des fois ça va, des fois ça ne va pas. Des fois il m'aime, des fois pas. C'est un peu comme si on prenait la fameuse marguerite et qu'on enlevait les pétales. Aujourd'hui, il m'aime un peu, beaucoup. Passionnément, la folie, pas du tout. Mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas les fleurs de marguerite qui nous disent si Dieu nous aime ou pas. C'est que Dieu a déjà parlé, il a déjà dit des choses dans la Bible. Alors que dit la Bible par rapport à ces questions? Est-ce que Dieu m'aime plus quand j'ai bien fait? Et est-ce qu'il m'aime moins quand j'ai mal fait? On peut prendre des exemples dans la Bible. Alors, qui est-ce qui a été plutôt un bon élève dans la Bible où on se dit, c'est quelqu'un qui a plutôt bien fait, donc est-ce que Dieu l'aime plus, lui en particulier? Moi, j'ai pensé à Abraham. Abraham, alors c'est un personnage de l'Ancien Testament, et en général, il est cité comme référence de celui qui est le modèle de ceux qui ont foi en Dieu. Et un exemple de quelqu'un qui a vraiment, vraiment, vraiment gâché les choses, moi je pense au roi David, qui pourrait se dire que Dieu est furieux avec lui à cause de ce qu'il a fait. David avait beau être roi sous l'autorité de Dieu, roi d'Israël sous l'autorité de Dieu, il a fait des choses terribles, il a plus ou moins détruit sa famille en volant la femme d'un autre et en tuant cet homme. Alors qu'est-ce que la Bible dit d'Abraham et de David? Alors ces deux personnages sont rassemblés dans la lettre aux Romains au chapitre 4. Et c'est dans ce texte que j'aimerais regarder avec vous. Qu'est-ce qui motive l'amour de Dieu? Des leçons d'après l'exemple d'Abraham et de David. Alors je vais lire les premiers versets dans la lettre aux Romains au chapitre 4. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si, en effet, Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. On va reprendre ces versets et puis essayer d'expliquer, de comprendre un peu tout. Alors le début du texte tombe bien, il pose la même question que nous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Abraham? Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Et pourquoi il lui a donné? Alors Abraham est présenté comme notre ancêtre selon la chair. Ça ne concerne pas tous ça. Paul dit ça parce que Paul est juif et Abraham est l'ancêtre des juifs. Et pour ceux d'entre nous qui ne sommes pas juifs, Abraham n'est pas notre ancêtre selon la chair. Ça ne veut pas dire que l'exemple d'Abraham n'est pas intéressant pour nous. Parce que ce qui est vrai pour Abraham découle sur tout le monde et on va voir quelques versets plus tard pourquoi. Donc même si vous n'êtes pas juif, écoutez ce que la Bible a à dire d'Abraham. Alors le verset 2 nous donne des indications pour notre grande question. J'avais dit qu'Abraham était plutôt l'élève modèle dans notre histoire. Est-ce que c'est à cause de ça qu'il est bien vu devant Dieu? Ben, le texte est catégorique. Hein. Il dit, si c'était à cause de ça, ben, toute la gloire reviendrait à Abraham. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. La gloire ne revient pas à Abraham. Apparemment, la gloire revient à Dieu dans l'histoire d'Abraham. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le côté bon élève d'Abraham qui joue en sa faveur? Et ben, comme nous on a fait, Paul il renvoie ses interlocuteurs à l'Écriture, c'est-à-dire à l'Ancien Testament. Parce qu'à son époque, le Nouveau n'avait pas été écrit encore. Enfin, Paul était en train d'écrire une partie du Nouveau Testament en écrivant la lettre aux Romains. Mais il nous renvoie à l'Ancien Testament. Et que dit l'Ancien Testament? Ben, il le cite tout simplement, hein, c'est écrit « Abraham crut à Dieu ». Et cela lui fut compté comme justice. Pourquoi est-ce qu'Abraham était bien vu devant Dieu? Parce qu'Abraham faisait confiance en Dieu, tout simplement. C'est pas parce qu'il se conduisait plutôt bien. Ça, c'est un peu surprenant pour les abords, parce qu'Abraham se conduisait plutôt bien. Pourquoi est-ce que Dieu ne le regardait pas d'une bonne manière à cause de ça, mais seulement à cause du fait qu'il lui faisait confiance? Et si on continue le texte, on a une explication à ça. Le verset 4 dit « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. » Si Abraham avait reçu quelque chose de la part de Dieu à cause de sa bonne conduite, on aurait appelé ça une récompense, ou un salaire, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas qui d'entre vous est salarié, mais vous savez bien qu'à la fin du mois, quand vous avez travaillé, si votre patron ne vous donne pas votre salaire, c'est lui qui est en tort et vous avez le droit d'aller le voir et d'exiger qu'il vous paye. Ça peut se passer plus ou moins bien, mais vous êtes dans votre droit d'exiger. Et c'est vrai pour d'autres domaines. Si vous êtes artisan, que vous avez travaillé pour un client, quand vous avez fait le travail, vous avez le droit d'exiger qu'il vous paye. Et les personnes qui sont en face de vous sont légalement contraintes de vous donner ce qu'elles vous doivent. Maintenant, imaginez qu'Abraham puisse exiger de Dieu en disant « Je me suis bien conduit, il faut que tu m'aimes maintenant. Tu me dois ton amour, tu dois me regarder d'une bonne manière. » Ça aurait voulu dire qu'Abraham pouvait contraindre Dieu. Dieu aurait été l'obligé d'Abraham. Abraham serait venu voir Dieu, lui aurait dit « Maintenant tu dois m'aimer parce que j'ai été bon. » Et Dieu aurait dû dire « T'as raison, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé, je suis forcé. » Je suis obligé de me rendre à tes exigences. Est-ce que vous pouvez imaginer Dieu comme ça, contraint par un humain? Non. Bien sûr que non. Dieu ne nous doit rien. Il y a un mot dans ce verset 4 dont je n'ai pas parlé, c'est le mot « grâce ». Alors, celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Sous-entendu que ce qu'il faut chercher de Dieu, ce n'est pas un salaire, c'est une grâce. Le mot grâce, c'est une question importante par rapport à notre question. Qu'est-ce qui motive l'amour de Dieu? Ce n'est pas notre bon comportement, visiblement, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce, d'après ce verset, c'est mis en opposition avec une récompense. La grâce, c'est absolument pas une récompense. Alors qu'est-ce que c'est la grâce? Alors le verset 5 nous l'explique. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. C'est un peu choquant comme phrase. Je relis ce qui est choquant. Celui qui croit en celui qui justifie l'impie. Dieu est celui qui justifie l'impie. Qu'est-ce que c'est un impie? C'est quelqu'un qui n'est pas pieux. Bon, ok. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de pieux? C'est quelqu'un qui est attaché à Dieu. Donc quelqu'un d'impie, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché à Dieu. C'est quelqu'un qui n'aime pas spécialement Dieu. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à plaire à Dieu. C'est quelqu'un qui ne veut pas mettre Dieu à la première place. C'est quelqu'un qui estime qu'il est le centre du monde et que Dieu doit faire partie de ceux qui se mettent à son service. Dieu veut faire grâce à des gens comme ça. Des gens qui se mettent en premier. Des gens qui se préfèrent eux-mêmes à Dieu. Dieu ne veut pas donner des récompenses à quelqu'un qui est bon. Dieu veut faire grâce à des gens qui ne le méritent pas, et qui peut-être même ne le cherchent même pas au départ. Dieu ne nous doit rien, Dieu fait grâce aux impies. Alors attendez une minute, est-ce qu'on n'avait pas dit qu'Abraham était plutôt le bon élève dans l'histoire ? Qu'il se conduisait plutôt bien. C'est vrai, Abraham est souvent cité en modèle, mais la Bible n'est pas le genre de livre à faire semblant que tout est rose et tout est doré. Quand on lit la vie d'Abraham, on voit quelques-unes des bêtises qu'il a faites quand même. À un moment, il avait un petit peu peur pour sa vie. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris sa femme comme bouclier. Pas très glorieux. Et il a fait d'autres choses un peu... qu'il faut un peu grincer des dents. Alors oui, Abraham est un modèle sur certains aspects, mais ce n'est pas le modèle absolu. Et Abraham, de toute façon, même s'il avait pu penser « Je me suis tellement bien conduit que je peux exiger de Dieu qu'il m'aime », s'il était venu avec cette phrase-là devant Dieu, je pense que... Je ne sais pas comment Dieu aurait réagi, j'imagine qu'il lui aurait ri au nez, je ne sais pas, un truc comme ça. « Toi, Abraham, tu veux exiger quelque chose de moi ? Regarde ce que tu as fait. » Ça ne voulait pas dire que Dieu ne l'aimait pas. En vrai, quand on a une relation avec Dieu qui est basée sur nos mérites, sur ce qu'on a fait, ben, ça ne peut pas vraiment marcher. Si on était vraiment, vraiment honnête, tous les soirs, on devrait se coucher en disant « Oh, j'ai tellement mal agi aujourd'hui que Dieu doit me détester. » Et si on arrive le soir en se disant « Aujourd'hui, j'ai été tellement bien que Dieu doit m'aimer », c'est qu'en fait, on est aveugle. Hein. On sait très bien, si on est vraiment, vraiment honnête, que Dieu voit, et que non seulement il voit, mais il déteste toutes nos désobéissances. Quand on ment, quand on est violent avec nos frères et sœurs, quand on fait passer nos intérêts personnels avant ceux des autres, ceux de notre famille, ceux de notre communauté, quand on dit des mots durs, quand on ne fait pas correctement le travail qui est attendu de nous, etc., etc. Tout ça, Dieu le voit et le déteste. Mais naturellement, on n'aime pas trop l'idée que Dieu nous déteste. Alors, on trouve des solutions. Et une des solutions, c'est de faire comme si ces choses n'existaient pas ou n'étaient pas si graves. On prétend être parfait. Peut-être pas parfait, mais suffisamment bon pour que Dieu soit content de nous. En vrai, on n'aime pas l'idée d'être le mauvais exemple devant Dieu, on préfère l'idée d'être le bon élève devant Dieu. Dans l'idée qu'on voudrait que Dieu nous aime. Et on veut forcer Dieu à nous aimer en faisant semblant d'être digne d'être aimé. Mais comme Dieu ne se laisse pas forcer la main, et comme en plus Dieu ne se laisse pas tromper par notre cinéma, ben Dieu ne va pas nous aimer à cause de ça. Dieu veut aimer des impies, Dieu veut faire grâce. Ça n'intéresse pas quand même devant lui en faisant comme si tout allait bien. C'est pas comme ça que ça marche. Et finalement, Abraham, on l'admire, mais en vérité, naturellement, c'était un impie qui ne s'intéressait pas tant à Dieu que ça, mais surtout à lui-même. En tout cas, dans certaines occasions, il l'a démontré. Ce n'était pas un héros dans cette histoire. Alors j'avais parlé d'Abraham et David, pour l'instant j'ai parlé que d'Abraham. David, il en est question dans les versets suivants. Alors je vais lire les versets 6 à 8. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice, sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Les deux phrases qui commencent par « heureux », c'est une citation d'un poème que David a écrit 1000 ans auparavant. Ici, c'est assez simple. Si David avait pensé que, malgré son adultère et malgré son meurtre, il était assez bon pour plaire à Dieu, il n'aurait jamais écrit les lignes qu'on a lues là. Il aurait écrit « Heureux l'homme à qui le Seigneur compte ses bonnes œuvres », en se disant « J'ai fait quelques petits écarts, mais mes bonnes œuvres rattrapent tout ». Mais ce n'est pas ce que David a écrit. Je relis le verset 8. « Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché ». David n'écrit pas « Heureux l'homme à qui compte ses bonnes œuvres »,« Heureux l'homme à qui Dieu compte ses bonnes œuvres », il écrit « Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché ». David ne fait pas semblant. David vient devant Dieu, absolument honnête, absolument conscient qu'il n'est pas digne d'être aimé de Dieu. Il n'y a rien en lui qui fait que Dieu puisse l'aimer. Mais ce n'est pas pour autant qu'il se dit « Oh, j'ai tellement tout gâché que Dieu ne doit pas m'aimer ». Ce n'est pas du tout sa réaction. David se sait impie devant Dieu. Il sait qu'il n'a pas vécu pour Dieu. Il n'a vécu que pour lui-même, que pour son propre plaisir égoïste. Mais il ne se dit pas « Dieu ne doit pas m'aimer ». David a absolument confiance dans l'amour de Dieu pour lui, malgré son péché. David sait que Dieu justifie l'impie. David sait que Dieu fait grâce. Et parce qu'il sait ça, il peut venir devant Dieu absolument honnête et reconnaître qu'il a tout gâché et pourtant s'attendre à l'amour de Dieu. Alors quand on dit ces choses, on n'est pas forcément à l'aise directement. On n'aime pas l'idée que Dieu puisse aimer quelqu'un qui se comporte si mal que David. Un meurtrier, quand même. Et même si on va un peu plus loin, on peut même peut-être être jaloux et se dire, en regardant les autres, dire, ben, moi je ne suis pas aussi pire que lui, si vous me permettez l'écart de langage. Je ne suis pas aussi pire qu'un tel. C'est pas possible que Dieu aime l'autre autant que moi. Moi, je mérite plus d'amour, finalement. On n'aime pas que l'idée de notre bonne conduite relative par rapport aux autres ne nous attire pas plus d'amour de la part de Dieu. Bon, en fait, on n'aime pas la grâce. La grâce, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est pas quelque chose qui fait partie de notre fonctionnement normal dans notre tête. La grâce, pour nous, c'est une anomalie. Et quand Dieu fait grâce à notre bénéfice, ça nous va. Mais quand Dieu fait grâce alors qu'on aimerait être vu plus haut, mieux que les autres, ça peut nous déranger. Et bien sûr, on ne dira pas naturellement comme ça dans la conversation. Moi, je n'aime pas trop la grâce. C'est pas trop mon truc. On le cache derrière. Et puis, on peut le rationaliser et puis le justifier avec des arguments. Un des arguments, par exemple, c'est que finalement, dans la Bible, Dieu a donné des règles. C'est pas pour rien. Quelqu'un qui respecte les règles doit quand même être mieux que quelqu'un qui ne les respecte pas. C'est un peu la question qui est soulevée dans la suite de notre texte. Alors, je vais lire juste le verset 9 pour nous. Ce bonheur n'est-il... Alors, quand Paul parle de bonheur, c'est parce qu'il fait référence à ce que David a écrit et qu'il a cité juste avant. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Okay ? Et donc Paul réagit en disant « Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons, pour Abraham, la foi lui fut comptée comme justice. » Quelle est la question de Paul ? Paul est en train de dire « Oui, d'accord, Dieu a vu la confiance qu'Abraham lui faisait et donc il l'a déclaré juste, mais quand même, Abraham était plutôt quelqu'un qui respectait toutes les règles de Dieu, tous ses commandements. » Donc là, il cite la circoncision qui était un peu le centre des commandements que Dieu avait donné à Abraham. En tout cas, représentatif des commandements que Dieu avait donné à Abraham. Donc la question est, quand même, Dieu aimait Abraham parce qu'Abraham obéissait aux règles de Dieu, non ? Et verset 10 répond. Comment était Abraham lorsqu'elle lui fut comptée, donc lorsque sa confiance lui a été comptée comme justice? À ce moment-là, est-ce qu'il était circoncis ou non? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Si je reformule, Dieu a aimé Abraham à quel moment? Quand Abraham a fait confiance en lui, en Dieu. Oui, d'accord, mais Dieu a aimé Abraham à ce moment-là parce qu'Abraham lui obéissait. En fait, non. Il n'avait même pas reçu le commandement un peu phare de toutes les règles qu'il avait reçues. Comment est-ce qu'il pouvait y obéir? Il n'avait même pas reçu ce commandement. Quand Abraham a fait confiance à Dieu et que Dieu l'a déclaré juste, Dieu n'avait même pas demandé à Abraham d'être circoncis, de circoncire ses descendants. quoi ça sert toutes ces règles? Eh bien, c'est les versets 11 et 12 qui nous répondent. Il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Quand Abraham a eu placé sa confiance en Dieu et qu'il a été déclaré juste, alors, et alors seulement, il a reçu les commandements de Dieu. Et ces commandements ne sont pas présentés comme une condition pour que Dieu l'aime. Elles sont présentées, alors là, c'est le mot « sceau » qui est utilisé dans ma Bible. Qu'est-ce que c'est un sceau? Qu'est-ce que ça veut dire? Un sceau, on n'a plus trop l'habitude de l'utiliser, mais c'est un peu l'équivalent, dans notre culture à nous, d'une signature qu'on pose au bas d'un contrat. Un sceau, c'était, par exemple, de l'argile fondue, de l'argile encore humide ou de la cire fondue qu'on déposait sur un objet ou sur une lettre. Et puis, celui qui avait écrit la lettre ou qui était propriétaire de l'objet posait dessus, alors souvent c'était sur une bague ou alors sur un bâton, et au bout il y avait une image. Hop, il posait l'image sur la cire ou sur l'argile, et ça mettait en négatif l'image qu'il y avait sur le bâton dans la cire ou dans l'argile. Et quand l'argile ou la cire durcissait, elle gardait cette image, cette empreinte. Donc on regardait l'empreinte et on reconnaissait, ah oui, c'est l'empreinte qui est au bout, qui est sur la bague ou sur au bout du bâton de l'intel, donc ça veut dire que cet objet lui appartient ou que cette lettre a été écrite par lui. Vous voyez l'idée? En quelque sorte, Dieu est en train de dire, avec les règles que je te donne, en particulier la circoncision, je suis en train d'écrire publiquement sur toi que tu m'appartiens. Et pourquoi il lui dit qu'il lui appartient? Et pourquoi il veut dire à tout le monde qu'Abraham lui appartient? C'est pas parce qu'Abraham lui obéit. Non, c'est parce qu'il lui appartient déjà. Parce qu'il lui a fait confiance. Et que Dieu l'a déclaré juste. Donc ce n'est pas l'obéissance d'Abraham aux règles de Dieu qui fait qu'il appartient à Dieu. C'est parce qu'il appartient à Dieu que Dieu révèle en lui, en lui donnant ses règles, son appartenance. Et ça, c'est important parce que ça remet les choses dans le bon sens dans la Bible, alors que nous, on a tendance, peut-être naturellement, à les mettre dans l'autre sens. Si j'agis bien, Dieu sera content de moi. Non. Dieu m'aime, et du coup, il s'attend à ce que j'agis bien. C'est le contraire. Mais c'est important de se le rappeler, non seulement de se le rappeler, mais de le mettre bien clairement à la pensée en avant, parce qu'on aura tendance à faire le contraire, sinon. Dans bien des domaines de notre vie, par exemple, pour ceux d'entre nous qui ont des enfants, quand on éduque nos enfants, peut-être le plus simple, c'est de faire en sorte qu'ils fassent ce qu'on leur demande et de les contraindre à nous obéir, d'obtenir d'eux un certain comportement. Mais si notre seul but, c'est ça, qu'ils aient ce comportement, on se trompe. Alors oui, peut-être qu'ils se comporteront bien, ok, on aura gagné ça, mais devant Dieu, ce sera complètement inutile. Parce qu'on n'aura pas fait qu'ils auront mis leur confiance en Dieu. Ou quand on rend témoignage dans le monde, quand il y a des gens qui viennent dans nos réunions, qui ne connaissent pas encore et qui découvrent, si le seul message qu'on leur transmet, c'est « fais ci, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça », ou si dans notre communication, on ne fait que dénoncer les crimes de notre société, et Dieu sait qu'il y en a, si notre seul objectif, c'est que finalement, les gens se comportent d'une manière où ils aient l'air d'être chrétiens, si notre seul but, c'est que la civilisation dans laquelle on vit ressemble à une civilisation chrétienne, on fait erreur. Parce que c'est pas comme ça qu'ils seront bien vus devant Dieu. Ils seront bien vus devant Dieu s'ils arrivent à comprendre qui est Dieu, que eux, ils sont impies, c'est-à-dire qu'ils ne méritent pas l'amour de Dieu, mais que Dieu se plaît à faire grâce aux impies. Et qu'ils cherchent cette grâce de tout leur cœur. Si notre seul enseignement consiste en un bon comportement, c'est un peu comme si on donnait un plan à un aveugle, en lui disant va à tel endroit, regarde le plan. Que va faire l'aveugle? Il va regarder le plan, et puis, pour se donner bonne convenance, pour ne pas montrer qu'il est aveugle peut-être, il va prendre le plan, il va semblant de le regarder, mais il ne va rien voir. Qu'est-ce qui va arriver? Il va se perdre. Pourquoi il va se perdre ? À cause de nous ? Parce qu'on lui aura donné, on l'aura incité à faire semblant d'être capable de se rendre au point d'arrivée. Nos enfants, les personnes à qui on parle de l'Évangile, feront peut-être semblant d'être des bons élèves, mais à la fin, on sera responsable de leur perte, si on se contente de leur apprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre à nos enfants ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il ne faut pas aller dans l'autre extrême. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas dénoncer au monde qui nous entoure les crimes qu'ils commettent. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas attendre d'eux un comportement chrétien s'ils ne sont pas chrétiens. S'ils n'ont pas encore placé leur confiance en Dieu. S'ils n'ont pas été justifiés par Dieu. Regardez Abraham, il a cru en Dieu, il a été justifié, et ensuite, Dieu a estimé qu'il était capable de suivre les règles, et donc il les lui a données. Donc, ce qu'il faut viser avant toute chose, c'est de montrer aux gens qu'ils sont ennemis de Dieu, mais que Dieu veut leur faire grâce. La morale, la bonne éducation, tout ça, ça ne peut pas rattraper l'attitude de notre cœur devant Dieu, qui nous place nous en premier avant lui. Par contre, la grâce de Dieu, elle peut tout chambouler dans notre cœur. Et elle peut rattraper notre impiété. Et pour faire réaliser ça aux gens, il faut leur faire comprendre que même quand ils essaient de faire le bien, le fond de leur cœur est mauvais. Je continue notre texte. Abraham est ainsi le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Et il est aussi le père des circoncis qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, qu'il était incirconcis. Alors ces quelques phrases, elles nous expliquent pourquoi l'histoire d'Abraham nous concerne, même si on n'est pas ses descendants. Parce que Abraham est en quelque sorte l'ancêtre de tous ceux qui ont une foi du même type que lui. Si on imite, non pas son comportement, mais sa foi, si on a foi comme lui a eu foi, on est ses héritiers. Et inversement, ceux qui sont ses héritiers biologiques, s'ils ne font que perpétuer les règles qu'il a reçues, ne sont pas vraiment ses héritiers. Ils deviennent vraiment ses héritiers, seulement quand eux aussi le suivent sur les traces de sa foi. Finalement, il y a égalité. Qu'on soit descendant d'Abraham ou pas, ou si on se remet dans notre contexte, qu'on soit enfant de chrétien ou pas, ce dont on a tous besoin, c'est de se tourner vers le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui s'hérite. Alors bien sûr, il y a des avantages à être enfant de chrétien, parce qu'on apprend des choses beaucoup plus tôt. Mais il y a quand même égalité, parce qu'à la fin, il faut prendre cette décision. Et celui qui se contente d'imiter le comportement de ses parents, sans imiter sa foi, n'obtient pas la bienveillance de Dieu comme ses parents. Oh, voilà. J'ai du retard. Voilà, c'est là que je devais en être. Je vais avancer un peu dans le chapitre. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Ces versets, ils abordent la même chose, mais sous un angle un peu différent. La grande idée de cette verset, c'est que Dieu a donné comme à Abraham le critère de la foi pour le sauver. Et l'idée, c'est qu'après lui avoir donné ce critère, il n'a certainement pas en placé un autre. Dieu ne va pas lui dire, bah, maintenant que tu as cru en moi et que je t'ai justifié, deuxième épreuve, il faut que tu obéisses à la loi. Pourquoi ? Parce que si Abraham échouait à la fin, Dieu lui dirait, ah, raté. finalement, je ne t'aime plus et tu n'es plus juste. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça deviendrait sa première promesse qu'il lui avait donnée quand il avait eu la foi? Ce serait l'annuler. C'est comme s'il lui disait, bah tiens, je te donne un cadeau. Une fois que tu as déballé le cadeau, que tu es tout content et que tu as même écrit ton nom dessus, Dieu te dit, maintenant, tu vas devoir faire un 100 mètres en moins de 5 secondes. Si tu ne réussis pas, je reprends le cadeau. Mince. Qu'est-ce qu'on penserait d'une personne qui fait ça? On dirait, bah, c'est quelqu'un qui est pas honnête. C'est quelqu'un qui revient sur sa parole. Quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Est-ce que Dieu est comme ça? Non. Dieu est honnête. Dieu ne revient pas sur sa parole. Dieu est absolument honnête. Donc Dieu ne va pas placer le critère de la loi après avoir offert le critère de la foi. Une autre chose que disent ces versets, c'est que le désir de Dieu, quand même, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Si Dieu veut que les gens soient sauvés, il ne va pas placer devant eux quelque chose d'impossible pour qu'ils soient sauvés. S'il disait « Je veux que vous soyez sauvés, et pour ça, je veux que vous couriez le 100 mètres en moins de 5 secondes », c'est comme s'il disait « Je ne veux pas que vous soyez sauvés ». S'il plaçait devant eux quelque chose dont il sait pertinemment d'avance qu'ils vont échouer. Dieu veut que les gens soient sauvés, alors il fait en sorte de le rendre possible pour eux. Et comment il le rend possible? En leur offrant sa grâce. Et ça, n'importe qui peut la saisir. Tout le monde ne le fait pas, et tout le monde peut le faire. Et c'est comme ça qu'on en arrive au sommet de ce chapitre, qui fait vraiment le pont entre l'histoire d'Abraham et Lot. Ça fait partie des versets qui montrent à quel point le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament sont le même Dieu. Il n'y a pas eu de changement entre les deux testaments. Qui agit et qui règne encore de la même manière qu'il le faisait à l'époque. Alors on va le séparer en deux. On va lire d'abord la fin du verset 17 jusqu'au verset 22. Abraham est notre père à tous devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant, contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité. Mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Si on veut résumer ces versets, on pourrait dire juste une phrase très simple. Pour obtenir les promesses incroyables de Dieu, il a suffi à Abraham de faire confiance à Dieu qu'il allait tenir ses promesses incroyables. Je la redis. Pour obtenir les promesses incroyables de Dieu, il a suffi à Abraham de faire confiance à Dieu que Dieu allait tenir ses promesses incroyables. C'est pas très simple dans la formulation, mais c'est très simple dans l'idée. Alors on va regarder dans le détail. Paul place le contexte. Le grand âge d'Abraham, presque 100 ans quand même. La stérilité de Sarah, son épouse. Il n'avait jamais eu d'enfant. Humainement parlant, il n'aurait jamais d'enfant. La promesse de Dieu, c'est quoi? Vous aurez une descendance nombreuse. C'est une promesse impossible. C'est impossible qu'elle soit tenue. Malgré tout, Abraham décide de faire confiance à Dieu qu'il tiendrait cette promesse impossible. Quelle est la conséquence? Dieu regarde Abraham comme juste. La formulation du verset 18 est très parlante, espérant contre toute espérance. Ça ne valait pas la peine d'espérer, c'était impossible. Pourtant, Abraham estimait que ça valait la peine d'espérer à cause de celui qui avait promis. Parce qu'il était digne de confiance. En fait, Abraham estimait que, à partir du moment où Dieu avait fait la promesse, c'est comme si c'était réalisé. Que la promesse soit possible ou pas. Autre détail qu'on peut regarder, c'est la fin du verset 17, où c'est écrit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, et que Abraham a une confiance en ça. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'Abraham avait compris que Dieu avait tout créé, et comment il avait tout créé, en parlant tout simplement, que telle chose soit, et que la lumière soit, par exemple, et la lumière fut. Ce n'était pas très compliqué pour Dieu. Et donc, en faisant la prolongation, il s'est dit, Dieu a fait une promesse, donc Dieu a parlé. Que ta descendance soit, Abraham, en quelque sorte. Ce n'est pas comme ça que Dieu l'a formulé, mais ça revenait à ça. Et la descendance fut. C'est ça la conclusion logique. Enfin, ça ne s'est pas passé aussi rapidement pour Abraham, il a attendu 25 ans, hein, cet enfant de la promesse. Mais pour lui, c'était, Dieu parle, la chose existe. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le verset 17 dit une autre chose qui est un peu plus surprenante dans le contexte. Parce qu'Abraham a cru à Dieu qui donne la vie aux morts. Quel rapport ça a avec notre histoire ? Il y a deux pistes pour comprendre ça. Une première piste concerne Abraham directement. Si vous connaissez l'histoire d'Abraham, donc finalement il a eu cet enfant que Dieu lui avait promis, qui était impossible. Et quelques années après, le petit Isaac, du coup, n'était qu'un enfant, quand Dieu a dit à Abraham, écoute, tu vas monter sur telle montagne et tu vas m'offrir ton fils, ton unique, celui que tu aimes, en sacrifice. À nouveau, on retourne dans le problème de la promesse impossible. Attends, je dois avoir une descendance nombreuse à travers cet enfant, mais tu me demandes de l'offrir en sacrifice. Un sacrifice, quand il est offert en sacrifice, il est mort. Il n'a plus d'enfant, c'est plus possible. Comment est-ce que je vais pouvoir avoir une descendance nombreuse à travers cet enfant, cette promesse que tu m'as promise, cette descendance que tu m'as promise ? Je suis sûr que ces questions sont passées par la tête d'Abraham. Néanmoins, qu'a fait Abraham ? Il a juste obéi à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on a une explication de la raison pour laquelle Abraham a pu obéir à Dieu. C'est écrit dans la lettre aux Hébreux que Abraham avait confiance en Dieu, même qu'il pouvait ressusciter les morts. C'est-à-dire qu'il probablement il s'est fait ce raisonnement dans sa tête, bon, Dieu a promis qu'à travers Isaac j'aurai une descendance, il me demande de le sacrifier, après tout c'est son problème, parce que c'est lui qui va devoir tenir la promesse après. Comment il va faire ? Peut-être qu'il va le ressusciter après que je lui offre un sacrifice. En tout cas, il va devoir faire quelque chose. Et donc, avec tranquillité, je ne dis pas forcément facilité, mais au moins tranquillité à ce niveau-là, il a pu aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, construire un autel, mettre du bois dessus, lier son fils, le mettre sur l'autel, prendre le couteau, lever le couteau. Mais les choses ne se sont pas passées tout à fait comme prévu. À ce moment-là, Dieu lui a dit stop, n'abaisse pas ton couteau. Et donc Dieu n'a pas eu besoin de ressusciter Isaac, le fils unique d'Abraham, celui qu'il aimait, parce qu'il n'est pas mort à ce moment-là, il n'a pas été offert en sacrifice. Mais malgré tout, Abraham a eu la foi que Dieu pouvait ressusciter les morts à ce moment-là. La deuxième piste de compréhension, et je ne pense pas qu'elle s'oppose, au contraire, je crois qu'elle se complète, de cette idée de faire confiance à Dieu qui ressuscite les morts ne concerne pas Abraham, mais nous. Nous et tous nos frères et sœurs chrétiens des siècles passés qui ont entendu parler de Jésus. Parce que si Dieu a épargné Isaac à cette occasion, il n'a pas permis qu'Abraham l'offre en sacrifice, Dieu n'a pas épargné son propre fils, son unique, celui qu'il aimait, Jésus. Mais ensuite, il l'a ressuscité, effectivement. Ça veut dire que Abraham est notre père spirituel. Abraham est notre père spirituel si on imite sa foi en croyant cette chose incroyable. Dieu peut ressusciter les morts. C'est humainement impossible, mais Dieu l'a fait. Et c'est ce qui est écrit dans les versets, les derniers versets de notre chapitre. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit « Cela lui fut compté », c'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Notre foi doit être la même qu'Abraham. Bien sûr, pas dans son contenu. Dieu ne nous a pas promis forcément une descendance nombreuse. Mais dans sa manière d'être, notre foi doit être la même. Nous rappeler que quand Dieu a parlé, c'est comme si c'était fait. Lui faire confiance. Et plus les promesses sont incroyables, plus il faut faire confiance à Dieu. Parce qu'on sait qu'elles ne se réaliseront pas d'une autre manière que si Dieu intervient. À Abraham, il a été promis une descendance, et c'était incroyable à cause de son âge, de la stérilité de Sarah. Mais Dieu a regardé avec faveur Abraham, parce qu'Abraham lui a fait confiance, malgré la folie apparente de ses promesses. Dieu nous regarde aussi avec faveur si nous lui faisons confiance, malgré la folie apparente des promesses qu'il nous fait. Qu'il a donné son propre fils pour payer de sa vie nos fautes, et qu'il l'a ramené vivant d'entre les morts. Peut-être que si vous venez à l'église dimanche après dimanche, vous avez longtemps l'habitude d'entendre que Jésus est mort et ressuscité pour vous. Et à force de l'entendre, on peut s'habituer à cette idée. Et ça peut nous paraître naturel. Il faut quand même se rappeler que c'est quelque chose d'incroyable. Dieu ne meurt pas, normalement. Et les hommes et les morts ne ressuscitent pas, normalement. Et même si on a l'habitude d'entendre ce message, c'est incroyable. Et placer sa confiance en ça, c'est fou. C'est fou, sauf si celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Allez, revenons à notre question initiale. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous endormir le soir en vous disant « Aujourd'hui, je me suis tellement mal conduit que Dieu ne doit pas m'aimer ?» Quand on dit ça, il y a du vrai et du faux. Oui, notre conduite est tellement mauvaise que nous ne sommes pas dignes d'être aimés de Dieu. Il n'y a rien en nous qui peut provoquer l'amour de Dieu. Malgré tout, il nous aime et il nous regarde avec faveur si nous lui faisons confiance. Si on lui fait confiance, que nos fautes lui faisaient tellement horreur qu'il a préféré sacrifier son fils que de nous laisser comme ça. Si nous en fait confiance aussi qu'il a ressuscité ce fils pour qu'il règne sur nous maintenant. Et quand on se dit « Aujourd'hui, j'ai été particulièrement bon et Dieu doit être content de moi, qu'est-ce qu'il doit m'aimer ?» Alors il y a du vrai, mais c'est tellement enrobé de faux que cette idée doit être jetée entièrement à la poubelle. Oui, Dieu m'aime, jusqu'à en mourir sur une croix pour moi. Mais ce n'est pas à cause de ma conduite que Dieu m'aime. C'est parce qu'il m'a justifié, moi qui étais son ennemi. Quelles implications pratiques pour nous ? Le premier que je vois, c'est le combat dans nos pensées. Comme j'ai dit tout à l'heure, la grâce, ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel. Ce n'est pas notre manière de penser normalement. On a tendance à avoir des relations avec les gens qui sont du donnant-donnant. Je t'aime parce que tu me fais du bien, et si tu me fais du mal, je te hais. Et du coup, forcément, on transpose cette manière de penser sur Dieu, on imagine que Dieu est pareil. Mais on a vu dans tout ce passage, non, Dieu n'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? D'abord, c'est lutter avec ses pensées quand elles nous viennent. Et c'est un combat acharné. Parce que même quand on a réussi à repousser cette pensée un soir, le lendemain, elle revient. Et pas que le soir. Continuellement. Chaque fois que je pense que Dieu m'aime à cause de mon comportement, je dois me répondre à moi-même, c'est faux. C'est pas à cause de mon comportement que Dieu m'aime. C'est puisqu'il a décidé de me faire grâce. C'est en lui qu'est la source de son amour pour moi. Et pas en moi. À chaque fois que je me dis non, j'ai fait trop mal, Dieu ne peut plus m'aimer, je dois répondre, c'est faux. Est-ce que le sacrifice de son fils est insuffisant pour couvrir tout ça ? Non. Dieu m'aime, malgré tout. Tout est grâce. Tout est grâce à partir du moment où j'ai placé ma confiance en Dieu. Si on n'a pas placé notre confiance en Dieu, la grâce ne nous est pas acquise, bien sûr. Et si on n'a pas encore placé notre confiance dans le sacrifice et la résurrection de Jésus, bien sûr qu'il faut qu'on craigne à cause de toutes nos fautes. Mais la bonne réponse, c'est pas de dire oui, Dieu me déteste et c'est perdu pour toujours. Non, la bonne réponse, c'est de dire, oui, Dieu me déteste à cause de tout ce que j'ai fait, mais il veut m'attirer à lui dans la réconciliation. Et je dois venir à lui et lui faire confiance. Autres implications pratiques. La transmission de la foi, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Notre but, c'est pas d'amener les gens à bien se comporter. Notre but, c'est de les amener à réaliser devant Dieu qu'ils sont impies et qu'ils ont besoin de sa grâce. Je reviens pas dessus. Dernière implication, nos relations interpersonnelles. Si j'ai bénéficié de la manière dont Dieu traite les gens, c'est-à-dire de la grâce, naturellement, ça va découler chez les autres. Et chaque fois que je réalise que je regarde les autres, non pas avec grâce, mais avec de l'endonnant, c'est un indice qui doit m'alarmer et me rappeler est-ce que j'ai bien compris la grâce de Dieu ? Je ne peux pas d'un côté me réjouir de ce que Dieu m'aime malgré mes énormes offenses et regarder mon frère qui m'a fait une toute petite offense comme ça et lui en vouloir. C'est impossible. Si je fais ça, ça veut dire que je n'ai pas compris ce que c'était la grâce. Et du coup, est-ce que j'ai bien compris comment Dieu m'aimait ? La grâce m'apprend à regarder comme mon ami, même celui qui s'est comporté comme mon ennemi. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Dieu a regardé comme ses amis ceux qui se sont comportés comme ses ennemis. Alors bien sûr, certaines personnes resteront nos amis. Qui reste l'ennemi de Dieu ? C'est celui qui refuse de lui faire confiance et de faire confiance à ses promesses. C'est celui qui refuse de saisir la grâce. Pareil, ceux qui resteront nos amis, c'est ceux qui refuseront de saisir la grâce qu'on leur propose. Ça veut dire que nous, on est toujours responsables de se réconcilier avec les autres. Toujours. On ne peut jamais se dire, non, ce qu'il m'a fait était trop, tout simplement. Je ne peux pas retourner vers la victime, on peut toujours retourner vers lui. Après, qu'il accepte la réconciliation ou pas, c'est sa responsabilité. Mais on ne peut jamais être l'obstacle à la réconciliation, parce que Dieu n'a jamais mis d'obstacle à la réconciliation avec lui. Il a tout donné jusqu'à son propre fils pour qu'on puisse être réconcilié. J'en ai fini en priant. Père éternel, je te remercie à cause de la grâce. La grâce ne venait pas naturellement dans mon cœur. Si tu ne l'avais pas révélée, j'aurais jamais pu la comprendre. Mais tu l'as révélée dans ta parole, tu l'as révélée en acte, en envoyant Jésus sur la croix pour nous. Aide-nous à vivre cette relation fondée sur la grâce avec toi et avec les autres. Merci pour cette révolution intérieure que ça peut faire dans les cœurs. Amen.
Merci Eddy de nous avoir rappelé l'importance de la grâce, que tout est grâce, que rien ne peut annuler la grâce, et que la grâce, c'est une puissance libératrice pour celui qui se confie en Dieu. Ça, il faut se l'imprimer comme avec un sceau, justement. Bam. Quelques nouvelles de la salle. Elle va bien. Les travaux avancent. Le plus gros est fait, le plus salissant. Il restera l'emménagement et le nettoyage à faire. Avec Fabien, on sera absent la semaine prochaine, mais on reviendra pour le lundi 26, donc. Et là, on aura quelques jours pour faire le emménagement, déménagement, nettoyage. Alors là, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Je ferai comme j'ai fait précédemment, je donnerai pour info les dates d'intervention à tout le monde. Après, viens qui veut et qui peut, bien sûr. Donc ça c'est pour la salle. Les réunions de prière, donc demain à 14h chez Françoise, comme d'habitude, et jeudi ici même à 19h. Alors à titre exceptionnel, on ne sera pas là. Enfin, je ne viendrai pas aux réunions de prière, cas de force majeure. Donc à titre exceptionnel, tous ceux qui ne viennent pas peuvent venir. ça compense. Bon, je vous incite à venir, c'est vraiment là aussi, la prière, c'est vraiment le cœur de la vie de l'Église. Voilà. Ai-je oublié quelque chose? Non, je n'ai rien oublié. C'est incroyable. Donc, dans ce cas, on peut chanter un dernier chant.
Thank you.
dimanche à tous. J'ai bien aimé le petit moment de silence. Il faut réfléchir à ce qu'on vient de chanter.
Est-ce que quelqu'un de chanter un autre chant?
Ah, mais on peut, hein.